samedi 9 septembre 2023, 14h30. Bienvenue au podcast des Apatrides Anonymes en direct pour 70 minutes. Normalement, on est tous les deux jeudis 18h30 ou en rattrapage sur choc.ca, la radio de l'UQAM. Là, exceptionnellement, on fait ça live le samedi à cause des activités liées à la rentrée à l'UQAM. Les horaires ont été chamboulés, les studios servaient de loge pour des lutteurs. Sinon, on est aussi diffusé au FM Radio Victoria sur l'île de Vancouver. Les Apatrides, c'est votre rendez-vous bimensuel sur les enjeux frontaliers, sécuritaires, migratoires, raciaux, autochtones, environnementaux, des droits humains, d'accès aux services, de double et de triple standard en fonction de l'origine, de la couleur de peau ou même de la religion des individus. Simon avec vous à l'animation. Réalisation et choix musicaux. Pour cette fois-ci, on vous a préparé une édition d'actualité surtout internationale. Par exemple, il y a Marie-Ève qui est avec moi.
Bien sûr, toujours.
Dans le studio principal. Allô, ça va bien?
Oui, très bien.
Oui, toi, tu y vas vraiment full international aujourd'hui avec un bloc sur la Manche.
Plus Royaume-Uni, je vais parler de la Manche indirectement parce que bon...
Par la Manche, ah ah.
Et
dans quelques minutes, tu vas nous parler des États-Unis.
Oui, donc, surtout des enjeux migratoires aussi.
Parfait. Donc, ça va bien aux États-Unis, je pense. Hein.
Déjà, super!
J'ai hâte d'entendre les bonnes nouvelles de nos voisins du Sud. Sinon, on a toujours un peu de contenu plus local aussi. Par exemple, il y aura un agenda culturel et militant vers la fin de l'heure. Et il y a Mathieu qui est à la console pour l'instant.
Oui, bonsoir, bonjour.
Bonjour, bonsoir.
Ben, on ne sait plus trop. Là. Hey, puis parlez pas de la bande de Gaza. C'est moi qui en parle. Là.
Par
la
bande. On te laisse la manche de Gaza, c'est ça.
T'as tout compris.
Puis t'as aussi des nouvelles plus locales liées à l'immigration au Québec, au Canada.
Oui, des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles, oui.
Parfait, donc on te retrouve un peu plus tard. Moi, je vais compléter tout au long de l'émission avec des mises à jour sur certains points chauds du globe. À travers tout ça, quelques nouveautés musicales qui, elles, seront entièrement locales. Donc, on retrouve Marie-Ève dans quelques secondes. Bienvenue aux Apatrides Anonymes, édition du 9 septembre 2023. Donc, sans plus d'introduction, ben Marie-Ève, je te laisse le crachoir.
Oui, parce que l'actualité a été foisonnante ces dernières semaines chez nos voisins du Sud. Mm-hmm. J'en traiterai pas de toutes, évidemment, puisque, comme vous, mon temps est limité.
Ouais.
Alors, je vais commencer par la frontière États-Unis-Mexique, où ce qui devait fatalement arriver a fini par se produire. C'est-à-dire qu'au début du mois d'août, un corps sans vie a été retrouvé dans la barrière flottante anti-migrants qui avait été installée en juillet par l'État du Texas à la frontière avec le Rio Bravo.
Le Rio Grande, là? Le...
Bravo.
Bravo, OK, c'est une autre rivière.
Ouais.
OK.
La cause de la mort de cette personne-là, son identité et sa nationalité sont pas encore connues. Selon des médias locaux, depuis son installation de cette barrière, plusieurs personnes se sont retrouvées bloquées dedans et ont dû être secourues. À l'époque, en juillet, à l'époque de son installation, le président du Mexique, López Obrador, avait affirmé que la mesure violait la souveraineté de son pays. Aux États-Unis, il y a le département de la justice qui avait porté plainte contre le Texas pour forcer l'État à retirer la barrière flottante et pour l'empêcher aussi d'en poser d'autres. Ça, c'était ma première nouvelle pas très réjouissante.
Ben non.
Et ça va continuer à peu près sur le même ton. Les violations des droits de la personne répétées et impunies dont est responsable la police des frontières américaines sont aussi pointées du doigt dans un rapport des associations Kino Border Initiative et Washington Office on Latin America. On y rapporte un mauvais usage de la force létale, des propos déplacés, de l'intimidation, du harcèlement sexuel, de la falsification de documents, un manque de nourriture pour les personnes arrêtées, des séparations de famille, etc. Depuis 2020, les deux associations ont totalisé 13 morts, lors desquels les agents ont utilisé la force, et je cite, « dans des circonstances où il n'est pas évident de savoir s'ils faisaient face à un danger immédiat ou encore s'ils sont pas parvenus à éviter un décès dans leur géole. » Les deux ONG ont aussi dénombré 78 plaintes déposées formellement contre cette force de police-là de 2020 à 2021. Je parle des plaintes formelles. Seulement 5% d'entre elles ont conduit à des recommandations de changement de pratique ou à la recommandation de menées à des poursuites disciplinaires là, contre l'agent ou les agents en question.
Qui mènent en général nulle part.
À rien non plus. Les associations s'inquiètent aussi là, de la durée des détentions à la frontière, qui sont normalement limitées à 72 heures, mais en pratique peuvent s'étendre sur une semaine, voire plus, toujours selon les associations. Je précise qu'en juin seulement, il y a 145 000 personnes qui ont été interpellées par les autorités américaines à cette frontière. Et bon, qui dit...
Toujours Texas, là, on parle.
Plus largement, États-Unis-Mexique.
OK.
Qui dit interpellation, dit expulsion quasi immédiate ou détention. À propos des détentions, un autre rapport confidentiel, celui-là, et qui a été publié par la National Public Radio, révèle un traitement barbare, ce sont les mots du rapport, des migrants dans les centres de détention de l'Immigration and Customs Enforcement aux États-Unis, le ICE. Le rapport de 1600 pages a été financé par des dons publics et préparé par des inspecteurs mandatés par le Département des droits civils et des libertés qui relèvent là, du ministère de la Sécurité intérieure. Et donc, ils ont été mandatés pour enquêter sur les violations de droits humains dans certains centres. Les inspecteurs ont examiné plus de 24 centres de détention appartenant à l'ICE répartis dans 16 États américains entre 2017 et 2019. Okay. Les conclusions sont sans équivoque. Des soins médicaux négligents et fournis dans des conditions dangereuses et sales. Ce sont les mots du rapport.
Ben, tantôt, tu disais que normalement, c'est 72 heures, mais que ça peut aller jusqu'à une semaine. C'est sûr que quelqu'un qui a une condition médicale particulière.
Non, c'est ça. Autre chose, des abus racistes là, de la part du personnel, des pulvérisations inappropriées de gaz lacrymogène sur des détenus souffrant de problèmes de santé mentale, d'autres problèmes qui, dans certains cas aussi, ont contribué au décès de détenus. Je vous donne quelques exemples, justement, de cas d'abus flagrants qui sont répertoriés dans le rapport. Il y a une personne était détenue avec une plaie ouverte sans bandage suite à une intervention chirurgicale dans le centre du Michigan. La personne détenue n'a pas eu de rendez-vous pour un suivi médical. Et le rapport indique aussi que le détenu n'a même pas reçu les soins les plus élémentaires que nécessitait sa blessure. En Georgie, une infirmière a ignoré un détenu de l'ICE qui demandait en urgence un inhalateur pour traiter son asthme. Et même s'il n'a jamais été examiné par le personnel médical, l'infirmière a noté dans le dossier qu'il l'avait été en urgence.
Okay.
En Pennsylvanie, un groupe d'agents correctionnels a attaché un détenu de l'ICE souffrant de problèmes de santé mentale dans une chaise de contention et a donné à la seule femme officier une paire de ciseaux pour lui couper ses vêtements en vue d'une fouille à nu. Je cite le rapport sur ce cas particulier. Il n'y a aucune raison correctionnelle justifiable qui obligeait le détenu souffrant de troubles mentaux à se faire couper les vêtements par une policière alors qu'il était attaché à une chaise de contention. Il s'agit d'une pratique barbare qui viole clairement les principes fondamentaux de l'humanité.
Ben, barbare, j'allais justement dire que c'était le mot approprié.
Donc. Exactement. La NPR, elle, avait tenté une action en justice en vertu de la loi sur la liberté d'information et c'est comme ça qu'elle a pu accéder au rapport suite à une décision d'un juge fédéral. Toujours sur les questions migratoires, la situation est telle au Massachusetts qu'au début d'août, l'État a déclaré rien de moins que l'état d'urgence face à l'afflux de personnes migrantes. C'est que près de 5600 familles ou plus de 20 000 personnes, dont beaucoup sont des migrants, vivent actuellement dans les refuges ou les centres d'hébergement, dans les refuges publics, y compris des enfants, des bébés, des jeunes enfants aussi, des femmes enceintes. C'est environ 3100 familles qui étaient dans la même situation il y a un an. Donc, c'est une augmentation de 80 %. On vous en a déjà parlé. C'est certains États dirigés par des républicains, là, notamment le Texas et la Floride,
ouais.
qui transportent des immigrants par autobus ou par avion vers des États et des villes dirigés par des démocrates comme la Californie, New York, Chicago.
Tu parlais du Massachusetts.
Et Massachusetts, c'est ça. Donc, par exemple, en deux jours seulement, il y a 50 familles de migrants qui ont atterri au Massachusetts et qui avaient besoin d'un hébergement. Dans le cadre de la déclaration d'urgence, la gouverneure de l'État, Maura Haley, a renouvelé son appel aux organisations locales qui peuvent aider ceux et celles qui cherchent un abri, mais aussi son appel aux personnes qui souhaitent parrainer une famille dans leur maison. L'État a aussi lancé un nouveau fonds d'aide aux personnes migrantes dont les contributions vont être utilisées pour aider à payer là, toutes sortes de biens et services comme la nourriture, vêtements, couches, transports, des examens de santé aussi, des services de traduction, de l'assistance juridique et des cours d'anglais. Faut savoir que le Massachusetts est tenu par la loi de fournir un abri aux familles admissibles par le biais de son programme d'aide d'urgence.
Par sa propre loi.
Par sa propre législation. Ce qui fait dire aux politiques et commentateurs conservateurs que l'État devrait annuler sa politique de droit au logement public. Mais, bon, en revanche, plus de 80 villes et villages de l'État qui font face à cette situation-là soutiennent la déclaration d'urgence. Et pour terminer, ben, pour régler la situation vraiment à la source, la gouverneure, elle, ce qu'elle demande, c'est elle demande au gouvernement fédéral une aide financière et encore plus urgent, des autorisations de travail accélérées pour permettre aux nouveaux arrivants de trouver plus rapidement un emploi puis de commencer à gagner leur vie parce que, selon elle, les autorisations de travail sont un des principaux moteurs de la crise actuelle puisqu'il faut attendre des semaines, des mois, voire même plus d'un an pour recevoir ces autorisations-là. Puis évidemment, ben quand on n'a pas de travail, c'est un cercle vicieux, là. Pas de logement, pas de...
Ou travail au noir, expulsion, etc.
Exactement.
Donc ça, c'est Washington, c'est sa compétence, si je comprends bien.
Je pense que oui, c'est ça. C'est pour ça qu'elle demande à l'État fédéral. Ouais.
OK. Ben merci Marie-Ève. God bless you. Et avant d'aller en musique, on revient au Canada, donc God bless.
À Mathieu, il veut...
Oui, Mathieu.
Oui, ben j'ai demandé à nos recherchistes de faire un peu de travail, puis
ah bon? Tu t'es demandé à toi-même de faire un peu de travail.
Oui, ben oui, au gardien de sécurité là, dans le corridor. Puis le Rio Grande, c'est le nom que les Américains donnent à la rivière, et Rio Bravo, c'est les Mexicains.
On parlait de la même rivière.
La même rivière qui sépare les deux
ben,
pays.
C'est bon à savoir, merci.
Merci, Paulo.
De... Oui, oui, j'ai fouillé dans ma tête.
Paulo de la géographie, hydrographie.
Nord-américaine. Trop,
donc, God bless Mathieu. Moi, je vais vous parler de nos relations avant d'aller en musique, nos relations canadiennes internationales. Tout d'abord, en Afghanistan. On le sait, tout est encore plus complexe sur le terrain depuis le retour au pouvoir des talibans. Ça fait 2 ans, c'était en août 2021. On ne célébrera pas. Tout ce qui est programme ou organisation humanitaire, si on veut opérer, pas le choix, faut passer par le gouvernement afghan, mais Ottawa interdisait de le faire parce que ça implique de collaborer avec les talibans qui sont classés ennemis ou terroristes. Il y a eu certains assouplissements qui ont permis quelques ouvertures, mais plusieurs ONG juge que les lois canadiennes rendent encore trop compliqué d'acheminer vivres, médicaments, assistance ou autres. On se rappelle aussi des rapatriements de ressortissants canadiens. Ça avait été long et pénible. Les objectifs n'ont jamais été atteints, même encore aujourd'hui, avec des promesses d'exfiltration d'anciens collaborateurs afghans avec le gouvernement canadien, des interprètes, des fonctionnaires. Aussi, on avait dressé des listes de personnes particulièrement à risque, des enseignants, des journalistes, des militants des droits humains, dont plusieurs femmes, évidemment.
Des fixeurs aussi.
C'est quoi des fixeurs?
C'est ceux qui vont comme guider les journalistes, par exemple, lors de leur reportage sur le terrain. Okay. Ils vont les mettre en contact avec des gens, ils vont trouver, tu sais...
Des gens qui connaissent bien tel département.
C'est comme un peu des guides touristiques, mais pour les journalistes, dans le fond. Là.
Donc, il y avait une liste de toutes ces personnes-là qu'on jugeait prioritaires pour sortir de l'Afghanistan. Ça aussi, les objectifs n'ont pas vraiment été atteints. Puis les femmes, bon, on en parle beaucoup, sont encore plus à risque de persécution. Là-dessus aussi, les promesses n'ont pas vraiment été tenues. Donc, il y a 2 semaines, une organisation qui est basée ici, Canadian Women for Women in Afghanistan, appuyée par une coalition plus large, a manifesté à Ottawa pour interpeller le gouvernement canadien sur la question spécifique de la situation des femmes en Afghanistan, qui se voit refuser des services médicaux vitaux, interdire l'accès à plusieurs professions et à l'éducation. Dans certaines provinces, même à partir de l'âge de 10 ans, l'éducation est coupée. Aussi, de manière plus générale, on dénonce la crise humanitaire sévère. Donc, 95% de la population afghane ne mange pas à sa faim et est dépendante des ONG, c'est ça, des aides. Donc, cette organisation, la Canadian Women for Women in Afghanistan, a lancé à partir d'ici l'enseignement gratuit en ligne, spécifiquement adapté et destiné aux filles afghanes. Certaines familles, quand même assez courageuses, ont mis leurs filles devant les écrans, mais dans le plus grand secret, avec toujours la peur d'être dénoncées par un tiers ou que des logiciels espions ou des inspections d'appareils informatiques révèlent le crime, avec des conséquences possibles extrêmement violentes pour toute la famille. Certaines familles n'osent pas transgresser l'interdit parce qu'elles ont peur ou parce qu'elles n'ont pas des conditions qui permettent de le faire. Par exemple, elles ne sont tout simplement pas au courant de l'existence de cette ressource en ligne ou elles sont trop exposées aux voisins ou encore elles n'ont pas accès à Internet.
Ben, c'est ce que j'allais dire.
Ben, c'est ça, il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent faire en sorte que les filles ne puissent pas avoir accès à cet enseignement en ligne-là qui est produit à partir du Canada. Donc, Canadian Women for Women in Afghanistan et la coalition qui l'appuie se questionnent beaucoup actuellement, pas nécessairement sur la pertinence des sanctions canadiennes et internationales, mais plus sur les modalités, leur portée, puis comme je disais aussi, ça bloque beaucoup de programmes et d'avancées potentielles. Donc, on se questionne sur la reconnaissance internationale du régime taliban. Donc, c'est quand même des vastes débats que je peux pas vous résumer ici, mais qui nous questionnent aussi nous-mêmes sur la manière dont on gère nos relations avec des régimes oppressifs. Sinon, la coalition est très claire sur une chose, la Cour pénale internationale doit inculper les talibans pour crimes contre l'humanité. Les camps de réfugiés en Syrie, dans le nord du pays, situation assez terrible dans deux camps principalement, donc les camps de Rojhe et de Al-Hol, qui sont gérés par les forces kurdes et soutenus par le Canada et d'autres gouvernements occidentaux. Les conditions horribles de ces camps sont connues depuis longtemps, mais il y a des nouvelles plus fraîches parce qu'il y a une délégation civile canadienne qui s'est rendue sur place et qui vient tout juste de rentrer il y a quelques jours. Donc, en gros, on emprisonne dans ces camps-là depuis des années des présumés djihadistes qui ont été arrêtés arbitrairement dans les années 2000, mais jamais inculpés, sont emprisonnés avec leurs familles, ce qui fait que ce sont majoritairement des enfants de très jeune âge qui se retrouvent prisonniers, souvent séparés de leurs parents, dans des conditions terribles au point qu'on parle d'un Guantanamo pour enfants. Il y aura effectivement des adultes djihadistes purs et durs qui sont détenus dans les deux camps, mais selon plusieurs témoignages les plus fondamentalistes, ce serait seulement une partie de ces prisonniers, et on les laisserait faire la loi en endoctrinant les enfants et en intimidant tout le monde, particulièrement les femmes, par exemple, en brûlant leurs tentes par mesure de représailles si on voit qu'elles veulent soustraire leurs enfants de la propagande djihadiste. Il y a déjà eu des morts brûlés de cette façon-là. Il y a des violences, semble-t-il, quotidiennes entre personnes radicalisées et plus modérées, sinon plus concrètement des conditions sanitaires pourries, aux contaminés, maladies, chaleur étouffante, poussière. La plupart des pays ont rapatrié leurs ressortissants, prioritairement les enfants. Mais le Canada traîne la patte, on en a déjà parlé ici à l'émission il y a longtemps, mais la situation perdure, aucune visite de représentants du gouvernement canadien depuis des années. Par contre, le FBI aurait interrogé jusqu'à 25 fois certains prisonniers canadiens. Donc l'une des principales conclusions de la délégation qui a visité les deux camps, c'est que ces gens-là ont besoin d'une aide consulaire canadienne urgente. Ils pourraient par la suite, une fois au Canada, être évalués, peut-être complètement libérés, du moins les 13 enfants canadiens et leur mère, ou dans le cas des adultes, être inculpés si évidemment ça se fait dans un contexte judiciaire juste et équitable. Le gouvernement canadien a admis son intention de rapatrier les enfants, mais pas leur mère, même celles qui sont citoyennes canadiennes. Et le gouvernement a même réussi à faire casser en appel une décision de la Cour fédérale qui l'obligeait à rapatrier ses ressortissants. Est-ce qu'on est prêt à aller en musique?
Non.
Non? Donc, non. Mathieu, on va y aller avec toi. Tu nous parles de...
Israël-Palestine.
On est déjà rendu à Israël-Palestine. Parfait.
Ben oui, écoute, on est... Désolé, c'est qu'il y a des fichiers qui fonctionnent mal là, au niveau du de l'ordinateur, des fichiers musicaux. Donc, je crois que la pièce n'est pas partie tantôt.
Fait
que...
Dommage, elle était très bonne.
Oui, oui, ben peut-être plus tard, on verra. Oui, ben beaucoup de nouvelles Israël-Palestine. Premièrement, on commence par ici. Une première représentation du Québec sera établie au Moyen-Orient, c'est bon? Un bureau sera ouvert cet automne à Tel Aviv, en Israël. Particulier comme nouvelle, quand même. La ministre Martine Biron affirme que ce nouvel établissement générera plusieurs retombées, dont le renforcement des relations gouvernementales et institutionnelles dans les domaines de la recherche et de l'innovation. Le Québec a observé en Israël un écosystème d'innovation dynamique, faisant du pays l'un des plus innovants et avancés du monde sur le plan technologique. Si tu me suis bien.
Oui, oui, je te suis.
Ça reflète, tu me suis bien, ça reflète bien ce qu'on parle souvent par rapport à Israël et ses avancées technologiques sécuritaires, entre autres.
Ouais, ils sont pas mal, même spécialistes mondiaux, je pense.
Exactement. Voilà. Fait que, mais le gouvernement du Québec est complètement pas du tout dans l'actualité, ou en tout cas, fait vraiment l'autruche, parce que bon, par exemple, le groupe canadien pour la justice et la paix au Moyen-Orient a lancé une pétition pour dénoncer cette décision en disant qu'il est choquant de constater que ce choix offre un cadeau important au gouvernement d'extrême droite d'Israël, alors même que celui-ci réprime vainement les Palestiniens de plus en plus, et même sa propre population aussi israélienne. Donc voilà, ça c'est une petite information. Si on va aux États-Unis, avant de me rendre directement en Proche-Orient, aux États-Unis, l'opinion publique américaine change sur l'apartheid des Israéliens, mais les élus n'ont pas reçu le mémo.
Ah bon? Explique-nous ça.
C'est un texte du Comité national palestinien, BDS. Faut dire que la représentante démocrate Pramila Jayapal, au Congrès américain, a qualifié Israël d'État raciste et le lobby pro-israélien a poussé le Congrès à adopter une déclaration inhabituelle, mais avec la majorité automatique habituelle, affirmant qu'Israël n'est pas un État raciste ou d'apartheid.
C'est quand même ben non.
Il faut vraiment répondre.
C'est rare qu'on affirme par une négation, mais en tout cas, c'est intéressant.
Mais pourquoi les groupes de pression anti-palestiniens d'Israël ont-ils ressenti le besoin d'adopter une telle programmation aux États-Unis? Ben, c'est qu'un récent sondage réalisé par l'Université du Maryland a révélé que si la solution à deux États s'avérait impossible à atteindre, 73% du public américain soutiendrait un seul État démocratique avec des droits égaux pour les Juifs et les Palestiniens. Donc, ça change l'opinion publique. Okay. Pourtant, à l'exception d'une poignée de démocrates progressistes, les politiciens américains du Sénat et de la Chambre des représentants restent dogmatiquement fidèles au régime israélien de colonialisme et d'apartheid, finançant et armant sa violence militaire contre les Palestiniens à hauteur de 3,8 milliards de dollars par année et le protégeant de toute responsabilité dans le monde entier, comme on sait. Faut dire qu'il y a eu un autre sondage réalisé plus récemment en avril 2023. Chez les démocrates, 44% décrivent Israël comme un État pratiquant une ségrégation semblable à l'apartheid. Un autre sondage, plus ancien en 2021, a montré que 25% de tous les Américains juifs pensent qu'Israël est un État d'apartheid.
Combien de pourcents?
25% des Juifs américains.
Quand même.
Et le sondage de 2023 montre également que 41% des démocrates soutiennent le mouvement BDS. Donc ça pour dire qu'aux États-Unis, il y a une certaine panique chez les lobbies et chez les élus par rapport à l'opinion publique qui change tranquillement sous la pression, entre autres, de différents groupes militants aussi, puis de certains élus.
Il y a comme un décalage qui est en train de se dessiner. Maintenant.
Voilà. Fait que ça, c'était pour en Amérique du Nord. Sinon, si on retourne les différentes manifestations de l'apartheid, premièrement, les pratiques carcérales illégales d'Israël équivalent à des crimes internationaux qui justifient une enquête urgente du procureur de la Cour pénale internationale, d'autant plus que ces infractions semblent faire partie d'un plan de
C'est la première fois que j'entends. Dépalestinisation
du territoire et que cela menace l'existence d'un peuple en tant que groupe national cohérent. C'est ce qu'a déclaré récemment la nouvelle rapporteure spéciale sur les droits de la personne dans les territoires palestiniens, Mme Francesca Albanese, alors qu'elle présentait devant le Conseil des droits de l'homme son premier rapport axé sur la privation arbitraire de liberté dans les territoires palestiniens occupés. Mme Albanese a indiqué que depuis 1967, Israël a détenu environ 1 million de Palestiniens dans les territoires occupés, dont des dizaines de milliers d'enfants. Actuellement, il y a 5 000 Palestiniens dans les prisons israéliennes, dont 160 enfants, et environ 1 100 des 5 000 prisonniers sont détenus sans inculpation ni jugement, donc en détention administrative, on peut dire.
Ouais, ben complètement illégal.
Voilà. Autre manifestation de l'apartheid, le tarissement de l'eau, l'implication de Mekorot dans l'occupation israélienne. Je vous explique, dans un rapport, l'organisation Who Profits, ça s'appelle comme ça, il y a enquête sur les cas de corruption, puis souligne le rôle de Mekorot, Compagnie nationale des eaux d'Israël, dans la facilitation de la dépossession et le déplacement des communautés palestiniennes des deux côtés de la ligne verte, à l'aide de diverses méthodes, dont l'appropriation des terres, la restriction des constructions, la politique de bouclage et le pillage continu de la terre occupée. Le régime israélien a tissé une toile enchevêtrée de lois militaires et de politique économique qui sert ses intérêts géopolitiques et économiques, tout en gardant l'économie palestinienne dans un état perpétuel de dédéveloppement, autre nouveau mot, c'est
de non-développement.
Du sous-développement et de subordination à l'économie israélienne. Cela a un impact économique dévastateur, les ressources en eau palestinienne et syrienne étant exploitées et appropriées au bénéfice des citoyens israéliens. Donc, vraiment, l'enjeu est la guerre de l'eau. Sinon, une bonne nouvelle, peut-être,
je suis pas prêt,
faut vous dire vite, là. La société Exilia poursuivie en justice pour complicité de crimes de guerre. La justice française enquête sur Exilia, un fabricant d'armes français, sur la possibilité que des crimes de guerre aient été commis avec ses systèmes d'armes. L'enquête porte sur l'assassinat de 3 enfants palestiniens par les forces d'occupation israéliennes à Gaza il y a 9 ans. Les enfants, Fela 8 ans, Wassim 9 ans et Jihad 10 ans de la famille Chou-Hébert, nourrissaient des pigeons sur le toit de leur maison dans le nord de la bande de Gaza lorsqu'une roquette tirée par un drone israélien les a touchés et les a tués. Leurs 2 cousins, Bassel 9 ans et Udé 16 ans, ont également été grièvement blessés et transportés à l'hôpital. L'assassinat des enfants a eu lieu le 17 juillet 2014, ça fait quand même presque 10 ans. L'opération a été baptisée à l'époque « Bordure protectrice » et a donné lieu à un assaut de Gaza pendant près de 2 mois. Au moins 2 300 Palestiniens ont été tués, c'était une grosse opération en 2014. En 2016, la famille Chou-Hébert a déposé une plainte contre Exilia Technologies, la société à l'origine de l'un des composants utilisés dans le missile avec lequel les forces d'occupation ont tué les enfants. La plainte est emblématique. Pour la première fois, les pratiques des forces d'occupation israéliennes et la responsabilité des fabricants d'armes sont mises en cause devant la justice française. En juillet, un des deux cousins, Udé, accompagné de son autre cousin, Bassel, s'est rendu en France pour présenter leur dossier au juge d'instruction. Bassel, qui a subi une grave blessure au crâne, a expliqué pourquoi il cherchait de l'aide en France. Nous sommes venus ici pour trouver justice et une solution et aussi un traitement. Parce qu'à Gaza, nous manquons de ressources médicales essentielles et il a encore des éclats d'obus dans le corps. Donc, c'est vraiment... Fait que, en terminant ce sujet-là, ben, un rapport parlementaire en France indique que les exportations d'armes françaises ont atteint un niveau record de 27 milliards d'euros en 2022. La région du Proche et du Moyen-Orient représente 64% du total des armes livrées par la France dans ce coin de...
Il y a de l'argent à faire.
Je termine avec deux petites choses rapidement, Simon.
D'accord.
Suggestion d'article, la criminalisation de la solidarité avec la Palestine gagne du terrain en Europe. Il y a une nouvelle loi en Angleterre qui date du 3 juillet qui vient criminaliser les gens qui appellent au boycott et à sanctionner Israël.
Okay.
En Allemagne, au Royaume-Uni et en France, ça continue aussi. Donc l'article est sur le site Orient XXI, qui est un bon média en ligne sur les enjeux du Proche-Orient. Okay. Donc je répète, la criminalisation de la solidarité avec la Palestine gagne du terrain en Europe. Et le triste bilan, terminant depuis le début de l'année, les violences dans le conflit israélo-palestinien ont coûté la vie à au moins 224 Palestiniens, 32 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon le dernier bilan là, en date du début du mois d'août.
Qui étaient en vacances ou qui sont des...
Des touristes, oui, okay. Tout à fait, oui, exactement. Donc voilà pour mon bloc Proche-Orient. Bon,
ben,
voilà, Israël-Palestine.
On entendait La Sécurité, c'est le nom du band, c'est tout en anglais malgré leur nom, et c'est une nouveauté locale de Montréal sur l'étiquette Motland. La Sécurité, c'est un quintet féminin qui se revendique du mouvement Riot Girls et qui se qualifie de post-punk ou art-punk.
Leur album Stay Safe, qui est assez haut dans le palmarès local de Choc, est maintenant disponible. Ils vont faire un show dans le cadre de Pop Montréal avec 6 autres bands. Grosse soirée, ce sera le samedi 30 septembre à l'entrepôt 77 au 77 Bernard Est. Précision technique, vous allez sûrement remarquer à partir de maintenant et pour le restant du balado, un changement de ton, de rythme, de son. C'est qu'à la base, on a tout enregistré live en studio le 7 septembre, d'un seul jet jusqu'à la fin. Mais la deuxième moitié de l'émission, pour une raison qu'on connaît pas, le son était rempli d'écho, ça se superposait, il y avait des bruits bizarres, impossible de comprendre. Donc, on a réenregistré chacun de notre côté les extraits prévus, dont l'animation, et on a fait un montage par la suite. C'est dommage parce qu'en studio, on avait les trois une belle chimie, je pense. On commentait, on faisait quelques blagues aussi, que vous n'aurez pas. Mais là, vous allez vraiment avoir les textes qui avaient été rédigés tels quels. Donc, voilà pour la précision technique. Merci de rester à l'écoute. J'enchaîne avec quelques nouvelles de la Libye. Tout d'abord, on vous parlait la dernière fois des reconduites sommaires et massives de migrants, parfois des mineurs isolés et même des femmes enceintes, à partir de plusieurs villes tunisiennes vers la frontière libyenne par la police en plein désert, geste pratiquement meurtrier. Il y a eu signature il y a quelques semaines d'un accord entre Tunis et Tripoli sur la répartition de ces centaines de migrants coincés dans des zones très dangereuses. Donc, de ce que j'en comprends, ça a mis un terme définitif à cette pratique cruelle de la part de la police tunisienne. Il faudra vérifier dans les prochaines semaines si c'est bel et bien terminé, mais depuis le 10 août, date de la ratification de l'entente, les ONG sur place ne rapportent plus ce genre d'incident. En Libye toujours, dans la capitale cette fois à Tripoli, devant les bureaux du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, il y a 200 migrants qui campent depuis début juillet pour réclamer leur réinstallation dans un pays plus sécuritaire que la Libye. C'est un peu un flashback de 2021, début 2022, alors qu'environ 1000 personnes s'étaient installées au même endroit pour les mêmes raisons pendant 3 mois avant d'être violemment expulsées par la police. Ce sont surtout des migrants subsahariens. Mais en 2023, principalement des exilés de la guerre du Soudan, au Soudan, beaucoup de femmes et d'enfants qui n'ont absolument nulle part où aller et qui se font constamment battre, pourchasser ou déloger des endroits où ils se trouvent par la police, par des agences de sécurité, par des groupes criminels. Une bonne partie sont officiellement enregistrés par le HCR comme réfugiés reconnus, mais malgré tout, il n'y a aucune aide pour le logement ou non plus pour la scolarisation des enfants ou les soins médicaux. D'ailleurs, un des jeunes réfugiés érythréens qui se trouvait dans le sit-in est décédé la semaine passée. Il réclamait des soins pour une condition qui n'est pas précisée, des soins qui, évidemment, il n'a jamais obtenus. Pour avoir les nouvelles les plus fraîches de ce qui se passe en Libye, on se doute qu'on peut plus vraiment passer par les fils du HCR, qui manque peut-être un peu de recul face à la situation actuelle, mais on se tourne plutôt vers une ONG très active sur place qui s'appelle Refugees in Libya, qui nous apprenait la semaine passée que la Libye, contrairement à la Tunisie, continue les arrestations de masse de migrants, beaucoup de Soudanais justement qui ont été arrêtés, pour ensuite les enfermer ou pour les reconduire à la frontière, mais vers le sud, cette fois vers le Niger et le Tchad. Encore une fois, en plein désert, on prétexte des enjeux de sécurité liés à des groupes armés rebelles pour justifier ce genre de purge. Pour revenir au commissariat pour les réfugiés, ses porte-parole disent qu'ils font le maximum possible pour aider les Soudanais et les autres réfugiés, mais que les ressources sont très insuffisantes par rapport aux besoins. Mais on accuse quand même le HCR d'une certaine complicité ou du moins de passivité avec les forces de l'ordre qui, à l'occasion, essaient de déloger le sit-in de manière violente sans que les employés sur place n'ouvrent la porte ou essaient d'intervenir pour désescalader la situation ou pour porter assistance aux blessés qui mangent des coups de matraque et de bouclier.
Yeah.
On passe en musique dans 2-3 minutes. Tout d'abord, quelques nouvelles de Mayotte, cette île française de l'archipel des Comores dans l'océan Indien entre Madagascar et le Mozambique. On vous parlait il y a quelques semaines de l'opération Wambushu, pilotée par le préféré de Marie-Ève, Gérald Darmanin, et dont l'objectif est la destruction des habitations de fortune où logent beaucoup de migrants. Quand on en avait parlé, l'opération avait du plomb dans l'aile, elle éprouvait toutes sortes de difficultés techniques et juridiques et générait beaucoup de résistance. Ben finalement, les démolitions, ça a débloqué. Il y aurait eu depuis le mois de juin environ 500 maisons détruites, abritant autant sinon plus de familles, qui se ramassent ben, soit dépendantes des offres de relogement pas très intéressantes de la part de l'État ou expulsées de l'île, entre guillemets, volontairement, ou à la rue, ou encore ce que les ONG sur place, dont Médecins du Monde, constatent, ont construit des nouveaux bidonvilles un peu plus loin, ce qui fait qu'on a simplement déplacé le problème. Et la préfecture du département d'Outre-mer poursuit ses expulsions de masse, surtout vers les autres îles de l'archipel qui, elles, forment le pays indépendant des Comores. 24 000 expulsions en 2022. 2023 est dans le même ordre de grandeur, ce qui fait de Mayotte le département français qui expulse davantage que tous les autres départements réunis, incluant ceux d'outre-mer et ceux du territoire français combinés. Petite nouvelle grecque pour clore ce segment, sort de capsule champion du monde. Si j'avais un dîner de cons ce soir, il serait mon invité d'honneur. Le titre de l'article d'Infomigrant est déjà assez parlant en soi. Grèce, un homme se filme en train de détenir illégalement des migrants dans la remorque de sa voiture. On se trouve à Alexandroupolis, proche de la frontière turque. Le monsieur se lance dans un éditorial de justicier dans lequel il fabule sur la prétendue responsabilité des migrants dans les feux de forêt en Grèce. Il se sent investi d'une mission. Il appelle ses compatriotes à prendre eux-mêmes en main la question de l'immigration clandestine en expulsant par leurs propres moyens un maximum de personnes migrantes. Dans le vidéo, il s'arrête sur le bord de la route, il fait le tour de la remorque qui est attachée à sa voiture, ouvre la porte de la remorque, on voit pas très bien, mais on voit des hommes de plusieurs origines qui sont entassés les uns sur les autres. Il prétend avoir 25 pièces dans sa remorque, c'est comme ça qu'il désigne les personnes qu'il détient. Donc pourquoi cet homme est notre champion du monde? Ben d'abord pour le geste aussi illégal que dégradant qu'il a posé, mais surtout pour le fait qu'il se publie lui-même sur les réseaux sociaux avec son identité, ben ça a permis son arrestation avec deux complices assez rapidement. Il y avait 13 personnes au final dans cette remorque. Donc après cette brève un peu insolite, on s'en va en musique avec un genre d'ovni un peu expérimental. C'est le projet québécois FELP de Félix Petit, qui est plus habitué au studio d'être dans l'ombre pour travailler sur les albums des autres, dont Hubert Lenoir ou Laurence Anne. Il a sorti récemment son tout premier album personnel sur Bansound. Le titre, c'est Help. C'est dans le palmarès local de Choc. Ça contient plein de collaborations d'artistes avec qui il a déjà travaillé. On va entendre le featuring avec Claude Pelgag. Le titre de la pièce est Babyfoot. Et on retrouve Mathieu avec des nouvelles plus locales après cette courte pièce de Help.
Le soleil chauffe la table, vie d'affronter quelques mises au macabre. Croise le regard à garde d'une personne assise au bord. Regarde, soupir, cache son sourire, pensée qui transpire, l'air de se dire je suis jamais contre les filles, elles sont trop faciles à briser. Oh mais quel enculé.
Toi. offre rien. Je l'ai lavé comme un lambeau. Au nom de tes
Oui, donc c'est mon deuxième micro sur les enjeux immigration Québec-Canada. Donc, première nouvelle, 4 mois après la décision de revoir l'entente sur les tiers pays sûrs, le nombre total de demandeurs d'asile arrivant au pays est sensiblement le même. En juin, le nombre de demandeurs d'asile frôlait la barre des 11 000 dans l'ensemble du Canada, un chiffre qui dépasse même les niveaux constatés en début d'année avant le changement des règles à la frontière. Les aéroports de Montréal et de Toronto sont désormais devenus les principaux points d'entrée au pays des demandeurs d'asile. Le nombre de demandes dans ces aéroports a triplé depuis le début de l'année. Autre dossier qu'on suit depuis un bon bout de temps, la Nouvelle-Écosse est devenue cet été la première province canadienne à cesser d'enfermer dans ses prisons provinciales des migrants détenus pour des raisons administratives par l'Agence des services frontaliers du Canada. Le ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse a confirmé avoir mis fin à cette pratique le 8 août 2023. À l'approche de la fin des ententes avec plusieurs provinces, notamment l'Alberta, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique et le Québec, le fédéral n'a toujours pas de plan de rechange. On sait que pour la Colombie-Britannique, par exemple, c'est le 31 octobre prochain et le Québec le 31 décembre à fin d'année, où les ententes se terminent. Le nouveau ministre fédéral de la Sécurité publique, Dominique Leblanc, tient le même discours que son prédécesseur, Marco Mendicino. Son bureau continue de dire qu'il travaille avec les provinces afin de réduire davantage le recours à la détention des immigrants et d'identifier des solutions pérennes. Toutefois, l'agence a obtenu une prolongation de son entente avec le Manitoba, comme elle l'avait fait précédemment avec d'autres provinces. Julie Champagne de la Clinique des réfugiés pour réfugiés d'Halifax craint que ça ne mène à un système encore plus injuste et aléatoire où les agents frontaliers pourraient transférer de nombreux détenus d'immigration dans des prisons ailleurs au pays, loin de leurs proches, de leurs avocats et de leur communauté. Selon elle, dans les mois précédant la fin de l'entente avec la Nouvelle-Écosse, certains migrants ont été transférés vers des prisons au Nouveau-Brunswick. Les organismes communautaires comme le sien sont les mieux placés pour prendre en charge les migrants en attendant le traitement de leur dossier et les aider à trouver un logement, des services juridiques et de l'aide psychologique. Nous réclamons du fédéral une réaffectation des ressources qui étaient versées aux établissements correctionnels, précise-t-elle. Faut savoir que la Nouvelle-Écosse recevait environ 400 $ par jour pour chaque détenu d'immigration, soit 12 000 par mois, selon un rapport de Human Rights Watch. C'est beaucoup d'argent. À l'échelle du pays, l'agence a détenu en moyenne 8 000 migrants chaque année de 2015 à 2020, dont le quart ont été envoyés dans des établissements correctionnels provinciaux. Autre nouvelle, bonne ou mauvaise, à vous de juger, l'usine de transformation de homards, les pêcheries Le Breton et Fils de Grande Anse au Nouveau-Brunswick écope d'une pénalité de 30 000 $. Selon le fédéral, l'entreprise aurait manqué à ses obligations de fournir un milieu de travail exempt d'abus à ses employés étrangers temporaires. L'entreprise de la péninsule acadienne n'a plus le droit d'embaucher des travailleurs étrangers temporaires avant de payer la pénalité imposée en juin par Emploi et Développement social Canada. Celui-ci ne peut révéler de détails sur la plainte et l'enquête car il s'agit d'informations confidentielles. Mais de son côté, l'employeur a l'intention de payer la pénalité et d'embaucher encore plus de personnel étranger temporaire l'an prochain. Ailleurs en Atlantique et au pays, d'autres entreprises ont toutefois écopé de pénalités beaucoup plus élevées au cours des dernières années, parfois accompagnées d'une interdiction d'embaucher des travailleurs étrangers. Sinon, ben récemment, il y a quand même eu des bonnes nouvelles, enfin des luttes qui ont été victorieuses. On vous parlait à la dernière émission d'un couple indien, Rajvinder Kaur et Randhir Singh, qui le 12 août 2023 devaient être expulsés vers l'Inde, et ce malgré les preuves abondantes que leur vie était menacée dans ce pays. On rappelle qu'ils sont âgés de 70 et 79 ans, qui vivent à Montréal depuis 8 ans et qui ont quitté l'Inde à la suite de violences politiques au Punjab. Mais finalement, quelques jours avant la date fatidique, l'expulsion a été annulée par un permis spécial, donc après plusieurs manifs et pressions, donc ça a été un certain succès. Il y a eu un autre cas, M. S., dont les médias ont moins parlé. Je vais vous résumer sa situation. Après que la demande d'asile de son mari en tant que membre d'une minorité religieuse persécutée a été rejetée, Fatima a déposé une demande de parrainage pour lui il y a de ça plus d'un an. Bien que leur demande de parrainage n'ait pas encore fait l'objet d'une décision, son mari a reçu un ordre de quitter le pays en tant que réfugié refusé. Il a fait face au choix intenable entre d'une part laisser sa femme et quitter son chez-soi pour retourner dans un pays où il est en danger, et d'autre part rester ici sans autorisation en attendant que le parrainage soit accepté. Comme plusieurs autres qui font face à ce dilemme horrible, il a choisi de rester. Environ une semaine après la date où il devait être déporté, il a reçu une lettre de l'agence l'informant qu'il était maintenant éligible pour un examen des risques avant renvoi, le fameux ERAR, et qu'il pouvait aller à leur bureau pour obtenir les formulaires. À sa grande surprise et à son grand chagrin, l'agence l'a arrêté durant la rencontre. On n'est pas très surpris. Il est détenu depuis à Laval depuis ce moment, il y a de ça plus de 2 mois. Ensuite, son erreur a été rejetée. Le taux d'acceptation pour ce type de demande est de moins de 5 %, donc c'est pas surprenant. On lui a immédiatement donné une nouvelle date de déportation, soit le 31 août dernier. À peine 6 heures avant le moment prévu pour sa déportation, M. S. a été informé que le ministre de l'Immigration, Mark Miller, a émis un permis de séjour temporaire qui lui permet de demeurer au Canada en attendant l'acceptation de sa demande de parrainage. Cette nouvelle a été annoncée après que la Cour fédérale et les Nations unies aient refusé d'empêcher sa déportation quand même. C'est la campagne publique menée sans relâche pour demander au ministre de l'Immigration de faire ce geste qui a permis cette victoire. Il y a eu plusieurs manifs, plusieurs pressions aussi encore une fois. Solidarité sans frontières et le collectif d'action de la diaspora sud-asiatique, SADAC, qui ont soutenu le couple dans cette lutte, félicite M. S. et salue son courage ainsi que celui de sa femme Fatina qui s'est tenue debout. Évidemment, on souligne que si le gouvernement avait déjà agi pour régulariser les migrants sans papier, comme c'est prévu depuis des mois, M. S. et Fatima ainsi que le couple indien et d'autres ne seraient pas dans cette situation. Donc, en terminant, ben vous dire aussi que dans les prochaines semaines, on va vous parler de la CAQ et ses tentatives de faire des seuils d'immigration, des politiques, de travailler sur les délais. C'est un peu le bordel. Il y a des consultations qui se tiennent actuellement, qui commencent sur différents enjeux. Et la CAQ essaie vraiment d'en donner le moins possible. C'est toujours de restreindre l'accès, de faire des critères de plus en plus difficiles. D'ailleurs, il y a deux, trois semaines, ils ont annoncé qu'une centaine de demandeurs d'asile auront droit à une éducation gratuite dans les cégeps. C'est une directive du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec. Mais une centaine pour l'ensemble du Québec, les critères sont ultra serrés. Il y a des conditions au niveau du français. Donc, c'est vraiment des miettes ou des petits programmes, des mini-programmes qu'on essaie de donner pour faire baisser un peu la pression. Mais en bout de ligne, il n'y a pas de politique globale. Il y a toujours cette réticence-là à accueillir les gens qui sont déjà ici ou qui ont besoin d'être reçus ici au Québec et au Canada. Donc, on s'en parle à la prochaine émission. Donc, voilà, c'était mon micro sur Immigration Québec-Canada. Bonne suite.
Quelques chiffres sur le Royaume-Uni, où le nombre de demandeurs d'asile en attente d'une décision a atteint un record, se chiffrant à plus de 175 000 personnes à la fin juin, soit 43 % de plus qu'à la même date l'an dernier. Et la grande majorité de ces personnes-là, soit près de 140 000 personnes, étaient en attente depuis plus de 6 mois, un chiffre qui est aussi un nombre record et en hausse de 57 % sur un an. Les chiffres officiels indiquent aussi qu'entre juillet 2022 et juin 2023, 41 % des demandes d'asile effectuées provenaient de personnes arrivées en traversant la Manche. Au total, pour cette période-là, juillet 2022 à juin 2023, ce sont 97 400 nouvelles personnes qui ont demandé l'asile au Royaume-Uni, un chiffre en augmentation de 19 % sur un an. Et sur la même période toujours, 20 900 personnes ont obtenu le statut de réfugié ou une autre protection, tandis que plus de 154 000 ont pu se rendre au Royaume-Uni via un programme spécifique, comme celui, par exemple, qui cible les Ukrainiens ou les personnes originaires de Hong Kong. Et en termes de nationalité, ce sont les Albanais qui arrivent en tête pour le nombre de demandeurs d'asile, suivis des Afghans et des Iraniens. Et si le rythme semble ralentir cette année, parce que les traversées de la Manche ont effectivement diminué de 20 % entre le mois de janvier et mai de cette année par rapport à l'an dernier, ce sont quand même déjà plus de 19 000 personnes qui ont fait la traversée de la Manche. Et on le sait, le premier ministre Rishi Sunak a promis d'enrayer le phénomène et multiplie depuis un certain temps les mesures pour tenter de réduire les arrivées. Par exemple, une des mesures récentes, c'est qu'il y a une nouvelle loi qui est entrée en vigueur en juillet et qui a été dénoncée jusqu'à l'ONU et qui interdit maintenant aux personnes migrantes arrivées de façon irrégulière sur le sol britannique d'y demander l'asile. Plus récemment, les patrons qui font travailler des personnes migrantes en situation irrégulière et les propriétaires qui louent leurs biens à des migrants vont écoper d'amendes qui ont triplé. Pour ce qui est des personnes, des patrons, c'est 52 000 euros pour une première infraction désormais et jusqu'à 69 500 euros en cas d'infraction répétée. Et puis, pour ce qui est des amendes aux personnes qui louent leurs biens ou leurs immeubles ou leurs logements à des migrants qui n'ont pas le droit de séjour ou, sur le sol britannique, elles vont passer de 5 800 euros par locataire. Elles vont passer pas de, mais à 50 800 euros par locataire. Et les violations répétées vont pouvoir atteindre 11 600 euros par locataire. Ces nouvelles pénalités-là vont entrer en vigueur au début de 2024. Et bien, la logique est assez simple à comprendre. Le gouvernement se dit que si les personnes migrantes n'ont plus accès au travail ni au logement, ben elles vont arrêter de vouloir traverser la Manche. Une logique qui est assez binaire et qui, en fait, est beaucoup plus compliquée que ça, on le sait. Le Royaume-Uni cherche aussi à réduire la facture de l'hébergement à l'hôtel des demandeurs d'asile, facture qui s'élève à 2,6 milliards d'euros par an. Ils cherchent à réduire cette facture-là en les installant, entre autres, dans des bases militaires désaffectées ou même dans des tentes achetées pour l'été. Et la dernière mesure en date pour réduire cette facture, depuis le 7 août, le gouvernement a commencé à parquer des demandeurs d'asile dans une barge flottante, la barge BB Stockholm, qui est amarrée à l'île de Portland dans le Dorset, prévoit abriter pour une période là, de 3 à 6 mois, jusqu'à 500 migrants qui sont dans l'attente de l'examen de leur dossier. Le port de Portland est le seul du pays à avoir accepté d'amarrer une barge comme celle-là. Des projets similaires ont dû être abandonnés faute de port d'attache. Et sans surprise, dès l'annonce de son utilisation, la barge BB Stockholm a été immédiatement dénoncé par plus de 50 organisations britanniques qui ont qualifié le programme du gouvernement, et je cite, de cruel et inhumain, parce que cette barge-là propose des conditions qui se rapprochent dangereusement de la détention. Et pour en rajouter, moins d'une semaine après son entrée en fonction officielle, la barge a dû être évacuée de ses 39 occupants en raison de la découverte de bactéries Legionella. Vous savez, c'est la bactérie qui cause la légionellose, qui s'attaque aux poumons et qui peut être potentiellement mortelle. Donc, la Legionella a été découverte dans les canalisations d'eau. Et selon The Guardian, les autorités du comté de Dorset ont alerté sur la présence de cette bactérie-là dans les canalisations de la barge dès le lundi 7 août, c'est-à-dire dès son entrée en fonction. Mais le Home Office, lui, assure avoir été prévenu que le jeudi suivant, la barge était donc évacuée 4 jours après la mise en garde des autorités locales et alors que des exilés supplémentaires s'étaient installés dans le bâtiment flottant. Et comme le plan d'expulser des demandeurs d'asile au Rwanda est toujours bloqué, on a appris récemment par le journal The Times que dans l'intervalle, le gouvernement envisage d'envoyer des migrants sur l'île volcanique de l'Ascension. C'est où ça, cette île-là? C'est en plein océan Atlantique, à près de 6500 kilomètres du Royaume-Uni. Donc, qui sait, peut-être que la prochaine fois, le Royaume-Uni va les envoyer sur la Lune, les exilés. Comme je le disais, si la moitié de l'année semble avoir vu moins de traversées, selon un rapport publié par l'association française Utopia 56 en juillet, les tentatives de traversée dans la Manche ont augmenté de 22% en juin, malgré tout ce renforcement-là des effectifs de police et aussi grâce à une météo plus clémente. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que toutes les mesures dissuasives du gouvernement semblent pas fonctionner du tout. Au contraire, les migrants vont emprunter d'autres routes qui sont plus longues et donc plus dangereuses. Toujours selon Utopia 56, l'association reçoit des appels de groupes sur tout le littoral depuis la frontière belge, c'est-à-dire une zone qui couvre environ 130 km de côte, ce qui multiplie parfois la distance de traversée par 3 ou 4 fois.
En guise d'agenda cette semaine, l'exposition au Musée du Fiers-Mondes à Montréal sur l'héritage de Salvador Allende au Québec. L'expo « Créer le pouvoir populaire » qui vient tout juste de commencer, elle se poursuit jusqu'au 22 octobre dans l'institution de la rue Adadégun et elle retrace l'histoire des 50 ans du coup d'État chilien du 11 septembre 1973. Elle vise aussi à démontrer la contribution de la diaspora chilienne établie au Québec et des nouvelles générations nées au Canada pour maintenir vivant cet héritage socialiste qui aurait été complètement balayé par les années Pinochet. Donc ça a l'air très intéressant. Déjà l'heure de la conclusion de ce balado bien dense comme toujours. Merci de votre attention. J'en profite pour vous faire une dernière suggestion de lecture cette fois. Un article de Maxime Laprise sur pivot.québec qui s'intitule « Non, l'histoire n'est pas attaquée ». C'est un peu dans la foulée de la décision définitive de la Ville de Montréal de ne pas réinstaller la statue de Johnny McDonald au centre-ville suite aux recommandations d'un comité de travail. Le réflexe de bien du monde, ben, c'est de crier à la censure, de dire « on veut effacer l'histoire », on entend bref les niaiseries habituelles. Donc M. Laprise souhaite rappeler certaines notions de base, comme de faire la distinction entre histoire, la discipline scientifique rigoureuse avec ses méthodes bien définies, sa littérature, son enseignement, et mémoire, ou moi ce que j'appelle plutôt la commémoration, ce qu'on choisit d'honorer avec la toponymie, avec des monuments, donc deux choses bien distinctes, histoire et mémoire. Et les fêtes s'en viennent presque, donc vous aurez peut-être l'occasion de rappeler ces notions de base à un beau-frère ou à une cousine que la commémoration ou la mémoire, ça n'a pas d'incidence sur l'histoire. L'article s'appelle donc « Non, l'histoire n'est pas attaquée », c'est sur pivot.québec. Je vous laisse nos coordonnées. Évidemment, tous nos balados sont en rattrapage sur choc.ca ainsi que sur notre site web apatridesanonymes.info. Notre courriel apatridesanonymes@resist.ca. On a une page FB où on partage toutes sortes de liens. On est aussi diffusé au FM Radio Victoria sur l'île de Vancouver. Avant de vous dire au revoir, je vous présente la pièce musicale qu'on va entendre, une pièce qui se trouve aussi au palmarès local de Choc. Ce sont les désormais légendaires Teke Teke de Montréal, super groupe de surf rock psychédélique d'inspiration japonaise, avec un dernier album Agatha avec un H sorti en juin dernier. On les a vus en spectacle dans le cadre du festival de jazz au Club Soda. C'était explosif. Si vous avez la chance de les voir live, sautez sur l'occasion. On va entendre la pièce Kakijiu. Merci beaucoup à Marie-Ève et Mathieu qui, comme toujours, ont été bien éclairants sur des enjeux souvent complexes. On se retrouve dans deux jeudis, le 21 septembre prochain. Merci de nous écouter. Profitez bien de l'été qui se poursuit. C'était les Apatrides Anonymes et on se laisse avec Teke Teke. Bonne soirée!
大きな鏡に飛び込んだ。